Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional.
Agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, inauguration de deux nouvelles stations de traitement des eaux usées à Blacé et la SNAC Conny. Pour nous en parler, Pierre Haricot, chargé des grands projets à l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Citral Mobilité et Libellule. Trois expérimentations pour encourager l'intermodalité sur le réseau de transport de l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Nous sommes en compagnie de Yann Bréhan, directeur de Transdev Villefranche-Beaujolais Réseau Libellule. Avec lui, les différents dispositifs expérimentés. Et pour conclure cette édition, Ukraine, inquiétude autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia suite aux derniers événements. Une question que nous avions abordée alors avec Bruno Chariron, ingénieur en physique nucléaire, pour la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Calade, le journal. Partout à Ti, c'est l'un des plus grands sites mégalithiques au monde, l'un des plus connus aussi avec Stonehenge, sur une surface d'un peu plus de 4 km de long. Le site de Karnak, dans le Morbihan, abrite un alignement de près de 3000 menhirs, vieux de 7000 ans. Un endroit au patrimoine culturel exceptionnel, mais qui se retrouve aujourd'hui dans la tourmente après les révélations de l'Ouest France et rapporté dans le quotidien 20 minutes. Pour faire place à un magasin de bricolage actuellement en construction, 39 menhirs ont en effet été détruits dans la zone du chemin de Montauban. C'était sans doute l'un des ensembles de stèles les plus anciens de la commune de Karnak, s'étrangle Christian Obels. Passionné d'archéologie, c'est lui qui a donné l'alerte dans un billet publié sur le site de l'association Sites et Monuments. Un premier permis de construire avait été refusé. Le projet se situant à proximité d'une fouille préventive ayant livré en 2009 des vestiges néolithiques, la réalisation d'un diagnostic archéologique préalable a été prescrite le 22 décembre 2014 par la DRAC Bretagne, explique la commune bretonne de Karnak. 8 ans plus tard, le même porteur de projet est revenu à la charge, avec un nouveau permis de construire au même emplacement. Dans le cadre de l'instruction d'urbanisme et des documents réglementaires en vigueur, ce dossier a fait l'objet d'un examen minutieux par les services de la DRAC, précise la maire de Karnak. L'instruction de ce dossier a donc été menée avec la plus grande rigueur. Une réponse qui ne satisfera guère Christian Obelst, qui rappelle dans les colonnes de Ouest-France que la loi est formelle et que toute destruction d'un site archéologique est passible d'une lourde amende. Par Jupiter. Agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, inauguration de deux nouvelles stations de traitement des eaux usées à Blacé et la SNAC. Pour nous en parler, Pierre Haricot, chargé des grands projets à l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône.
Oui, alors en fait, en 2 ans, effectivement, on a pu élaborer le projet, déposer les autorisations et puis démarrer début 2022 les travaux de construction et qui se sont achevés en fait fin 2022. Et là, on est sur des périodes, on a fini la mise en service, on est sur des périodes où on va observer et faire les réglages pour affiner le traitement. Donc la station donc de Blacé, hein, qui collecte essentiellement les eaux usées de la commune de Blacé, donc qui est une station qui de capacité 2280 équivalents habitants, hein, et puis la station de Cogny-Lasna, parce qu'en fait, qui dessert l'ensemble de la commune de Cogny, une partie de Lasna, qui fait 1950 équivalents habitants de capacité.
Un rappel du principe de ces nouvelles stations d'épuration de Blacé et Lasna-Cogny.
Oui, en fait, le principe, il est à la fois particulier et innovant. En fait, on est sur donc, un traitement sur des filtres donc, plantés de roseaux. Donc, ce sont des filtres de sable sur lesquels on met des roseaux qui viennent en fait permettre à l'eau d'être infiltrée et traitée. Et puis on a en fait l'innovation, elle vient en fait d'un système d'aération qui est mis en place, qui existe depuis quelques années, qu'une entreprise a développé et qui permet d'améliorer considérablement la qualité du traitement. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'abattre entre 95 et 99% de la pollution qui rentre à la station. Donc on a une eau qui est totalement transparente quand elle ressort de la station.
Les eaux usées sont traitées en station d'épuration avant d'être rejetées en milieu naturel.
Oui, alors les eaux en fait sont restituées au milieu naturel, donc le Bief de Lait à Blacé et puis donc le Morgon à l'Asna. Et donc effectivement, cette eau, une fois épurée, est restituée au milieu naturel.
Les zones humides, des zones de transition entre la terre ferme et l'eau libre.
Bah, l'enjeu sur la station d'épuration de l'ASNA, c'était effectivement la présence à proximité du chantier d'une zone humide. Et donc on a travaillé avec un écologue pour restaurer la zone humide qui avait été dégradée par les exploitations agricoles précédentes. Et puis on en a profité aussi, à la place de l'ancienne station, de créer une nouvelle zone humide de façon à améliorer l'habitat, on va dire, et l'environnement d'une façon globale du site.
Un aménagement parfaitement intégré dans le paysage.
Bah, effectivement, la particularité de cette technique, c'est qu'on voit essentiellement les roseaux. On a aussi beaucoup travaillé sur l'intégration en mettant en place des bardages bois sur les bâtiments pour effectivement qu'ils ne soient pas visibles. Et puis tout le travail qui a été fait sur les plantations et également la zone humide, qui fait qu'effectivement aujourd'hui on ne sait pas trop si c'est une pépinière, un square ou effectivement une station d'épuration.
Une nature qui reprend ses droits.
Bah, sur la zone humide, quand on est arrivé, effectivement, il y avait beaucoup de déchets, de dépôts de tuiles, de fumier, de choses bon, qui sont liées aux activités précédentes. Et du coup, on a pu effectivement nettoyer l'ensemble du site. Et naturellement, en fait, on s'est rendu compte que les espèces qui sont présentes dans ces zones humides en fait, reviennent au bout de quelques semaines.
Un aménagement sur du long terme.
Et ben, quand on conçoit la station, on la conçoit au moins pour 30 à 40 ans. Donc effectivement, on considère l'évolution de population. Donc on surdimensionne un petit peu la station pour qu'elle puisse accepter les futures constructions ou les futures modifications des réseaux pour qu'effectivement, on n'ait pas besoin de refaire des travaux avant une trentaine d'années minimum.
La toute nouvelle station d'épuration a engendré la démolition de l'ancienne station.
Et ben, effectivement, donc on l'a conservée le temps de mettre en service celle-ci. Et puis... au mois de janvier-février, on a pu la démolir, désamianter, parce qu'il y avait de l'amiante. Donc on a pu désamianter, démolir, et puis remettre, on va dire, le site un peu en état, dans son état naturel. Et puis de créer aussi, un espace un peu plus propice pour la faune et la flore, donc avec différents aménagements, notamment des mares, de l'habitat pour la faune.
Et enfin, la nécessité de s'accompagner d'un écologue dans l'aménagement de la station d'épuration des eaux usées.
Voilà, donc on est toujours effectivement sous le contrôle et avec les autorisations de l'État et avec effectivement l'accompagnement d'un écologue qui était là pendant le chantier de restauration de zones humides. Alors c'est vrai que en général, c'est pas vendeur, alors ça peut sentir au niveau de l'arrivée un petit peu, donc là c'est fermé, donc ça sent très peu. Et puis effectivement, la technique fait qu'on n'a quasiment pas d'odeur et voilà, les roseaux sont en train de pousser, donc la situation s'améliore. Donc on a quasiment pas d'odeur autour de la station et quand on passe devant. Les riverains, effectivement, par rapport à ce qu'on avait avant, en termes de paysage, d'odeur et puis de nuisance, c'est sûr que c'est beaucoup mieux pour eux.
C'était Pierre Haricot, chargé des grands projets à l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône dans le cadre de l'inauguration de deux nouvelles stations de traitement des eaux usées à Blacé et Lasnaconi. Citral Mobilité déploie 3 expérimentations pour encourager l'intermodalité sur le réseau Libellule de l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Afin de proposer des solutions alternatives à la voiture individuelle, Citral Mobilité s'engage donc à accompagner l'usage du vélo en complémentarité des transports collectifs, comme l'emport des vélos à bord des bus, l'installation de plateformes de stationnement et de boxes sécurisées pour les vélos ou encore la mise des voyageurs à l'emport des vélos à bord des bus de certaines lignes. Les explications des différents dispositifs expérimentaux avec Yann Briand, il est directeur de Transdev Villefranche-Beaujolais, réseau Libellule. On l'écoute.
C'est ça, on veut essayer de faire une expérimentation pour encourager l'intermodalité bus-vélo. Donc cette expérimentation, elle repose sur 3 actions. On a implanté 4 plateformes de stationnement de vélos qui sont abritées, ou sur lesquelles on puisse stationner 8 vélos. Elles sont placées à des endroits stratégiques, c'est-à-dire en terminus de ligne, des lignes principales du réseau, ou sur un endroit stratégique de ces lignes à forte fréquence. Et puis ensuite, ce dispositif d'abri vélo sera complété par 2 boxes sécurisées qui vont arriver dans les jours qui suivent. Et puis on a donc la possibilité, on offre la possibilité aux clients de la ligne 1 et 3 d'expérimenter l'emport du vélo à bord du bus. sur les lignes 1 et 3. Celui qui souhaite pouvoir monter dans son vélo, finir son trajet ou parce qu'il y a une averse, une opportunité, que sais-je, justement on expérimente pour voir et on va essayer de mesurer et de savoir quels sont les comportements et est-ce que ce genre de dispositif favorise une intermodalité et surtout l'arrêt de l'utilisation de la voiture individuelle. C'est bien de ça dont on s'occupe aujourd'hui.
Dans le dispositif mis en place, l'installation de plateformes de stationnement et de boxes sécurisées pour les vélos.
Alors aujourd'hui les quatre, il y en a un qui est sur le parking du lycée Louis Armand, qui est aussi un parking de covoiturage. Il y en a un qui se trouve au terminus de la ligne 2 à Arnas, à l'escale, juste à côté de l'arrêt de bus. Il y en a un autre sur le terminus également de la ligne 1, mais à l'Imlette, place de l'Imlette à Jasson-Routhier. Le quatrième est au rond-point de l'Europe, en bout de ligne de la ligne 3, qui est une ligne forte également, qui arrive ici, et la ligne 4. Et là, l'intérêt, c'est qu'il est dans la zone commerciale. Hein, vous voyez le rond-point de l'Europe. Et c'est pour tester, pour voir si on peut faire le dernier kilomètre avec le vélo, une fois qu'on a pris le bus. Voilà, et le fait de poser dans une zone commerciale, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut stationner le vélo. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on a choisi ces lieux emblématiques. Voilà.
10 véhicules au total sont équipés avec un système d'accrochage simple et sécurisé. Ce dispositif pourra accueillir 2 vélos par véhicule et les usagers pourront embarquer ou débarquer leur vélo gratuitement à tous les arrêts des lignes concernées par l'expérimentation, les lignes Citylib 1, Jassan-Lima, et Citylib 3, Carrefour de l'Europe, Glaizé-Hôpital. Avec aussi la mise à disposition de vélos pliants électriques auprès d'un panel de testeurs. Ces expérimentations s'inscrivent dans la dynamique initiée par Citral Mobilité de déployer de nouveaux services visant à faire évoluer les comportements à l'avenir. Et en conclusion à cette édition, guerre en Ukraine, inquiétude autour de la centrale de Zaporijjia. Le barrage situé dans la région de Kherson en Ukraine a été partiellement détruit selon les autorités russes. Kiev alerte sur un risque nucléaire. La poursuite du conflit entraîne une dégradation de la sûreté nucléaire. Les risques d'accidents graves sur les installations nucléaires restent bien réels, nous confiait alors Bruno Chariron, ingénieur en physique nucléaire pour la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Quelques extraits de cet entretien alors par téléphone.
Oui, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique a des observateurs sur cette centrale de Zaporijjia depuis maintenant plusieurs mois et simplement cette agence de l'ONU note que la rotation de son équipe sur place a plus de 2 semaines de retard du fait des combats qui affectent l'ensemble de la zone. Donc ça montre bien que cette centrale nucléaire de Zaporijjia n'est toujours pas en sécurité, elle n'est pas sanctuarisée. Ça fait maintenant des mois, depuis pratiquement l'été dernier, que le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique se bat, tente de mettre en place une zone de sécurité autour de cette centrale nucléaire, d'obtenir qu'elle ne soit plus occupée par des forces militaires, simplement il n'y parvient pas. Et ça, c'est très préoccupant parce que même si les 6 réacteurs de cette centrale sont arrêtés, en arrêt à froid, ils ont été parfois en arrêt à chaud, mais dans les 2 cas, il faut en permanence les refroidir. C'est-à-dire que avec des réacteurs nucléaires, même lorsqu'ils sont arrêtés, il faut refroidir en permanence les matières hautement radioactives qui sont dans le cœur des réacteurs, qui sont dans les piscines de désactivation des réacteurs. Et actuellement, cette centrale de Zaporijjia a besoin en permanence de 100 MW d'électricité. 100 MW, c'est énorme, c'est le dixième de la production d'une centrale nucléaire classique, rien que pour garantir son refroidissement. C'est-à-dire que cette centrale ne produit plus d'électricité et elle en consomme en permanence une quantité très importante. Or, depuis des mois maintenant, il y a régulièrement, à cause des combats, mise à mal d'un certain nombre de lignes électriques principales et ou de secours qui alimentent cette centrale de Zaporijjia. Si de nouveau, comme ça a pu arriver, il y a perte des alimentations électriques, à ce moment-là, il faut que les groupes de secours, les groupes électrogènes de secours prennent le relais pour alimenter en électricité cette centrale et que cela puisse se faire pendant des jours et des semaines tant que les alimentations ne sont pas rétablies. Donc là, on est dans un contexte qui n'est absolument pas normal.
Le président du Conseil européen, Charles Michel, a affirmé ce mardi que la Russie devrait rendre des comptes après la destruction partielle d'un barrage hydroélectrique en Ukraine, évoquant un crime de guerre.
fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.